accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Alors que la France s'apprête à se pencher encore une fois sur les questions d'immigration et d'asile avec un nouveau projet de loi, l'Allemagne reste le premier pays d'accueil des réfugiés dans l'Union européenne en valeur absolue. En 2022, la capitale, Berlin, a accueilli plus de 100 000 réfugiés. Des arrivées qui mettent en lumière la crise du logement que traverse la ville depuis des années. Venus en grande majorité d'Ukraine, 90% de ces réfugiés ont déposé une demande de long séjour. Au départ, Berlin a compté sur la solidarité de ses habitants et mis en place près de 30 000 places d'accueil d'urgence. Elle doit désormais construire et trouver des solutions durables pour faire face à ces nouveaux arrivants. Le reportage à Berlin de notre correspondant Julien Méchaussy.
Cheveux fraîchement teints, tenue sportive blanche et un large sourire, Olga, 70 ans, peut enfin accueillir des visiteurs dans son propre appartement. Près d'un an après avoir fui la guerre et Donetsk dans le Donbass. Rénové récemment et situé dans un immeuble du début du XXe siècle au sud de la ville, Olga a emménagé il y a quelques semaines dans ce 3 pièces de 80 mètres carrés avec ses 3 petits-enfants, Anastasia et Yulia, âgés de 21 et 17 ans, et Nikolai, 9 ans. Nikolai vient tout juste de rentrer de l'école et est tout fier de montrer sa chambre, rien qu'à lui, sous le regard empli de soulagement de sa grand-mère.
C'était tellement important que Nikolai ait enfin sa chambre à lui. Pendant presque une année, il a dû partager un lit avec moi ou ses deux sœurs. Je suis si heureuse aujourd'hui. Il dort dans son lit, il a un petit bureau pour faire ses devoirs. C'était mon plus grand souhait pour lui. Et nous avons eu beaucoup de chance. Nikolai a obtenu une place dans une école internationale pas très loin d'ici. Il apprend à parler allemand, russe et ukrainien.
Olga prépare le repas, elle fait revenir dans une généreuse couche d'huile des blini, tandis que le bortsch, le potage traditionnel ukrainien, est réchauffé dans une casserole. Sa petite nièce est venue lui rendre visite. Galina est arrivée à Berlin à l'âge de 11 ans, au début des années 2000. Avec sa mère, elle a hébergé les premiers mois sa grand-mère, ses deux cousines et son cousin dans leur petit appartement. Galina pensait rapidement trouver un logement, mais elle a vite déchanté.
J'ai rencontré de nombreux Ukrainiens qui ont fait l'ouest du pays pour se réfugier en Allemagne dès le début de l'agression russe. Au fil des mois, beaucoup sont rentrés car ils voyaient que l'ouest était moins touché par la guerre. Malheureusement, parmi eux, certains ont quitté le logement qu'ils avaient obtenu par les services sociaux allemands, du jour au lendemain, sans prévenir personne. Et oui, ce genre d'histoire dissuade les propriétaires de louer des logements à des réfugiés ukrainiens.
Face à une situation devenue intenable, Olga et ses petits-enfants sont partis durant l'été vivre dans une chambre d'hôtel mise à disposition par la ville.
L'hôtel n'était pas dans un très bon état. Tout était très vieux, il n'y avait que des familles de réfugiés qui y vivaient. Pas uniquement d'Ukraine. Il y avait plusieurs dizaines de chambres sur 6 étages avec une seule cuisine et un seul réfrigérateur pour tout le monde. Comme nous étions trop nombreux et qu'il n'y avait pas assez de place, nous avons dû acheter un petit frigo. Heureusement, il y avait une machine à laver à la cave. Mais nous devions partager une chambre à 4. Ce n'était pas tous les jours facile.
Un récit partagé par de nombreux réfugiés ukrainiens qui se heurtent à un marché de l'immobilier déjà très tendu dans une ville dont la population ne cesse de croître. Pris de court, le Sénat berlinois a mis beaucoup de temps à réagir avant d'annoncer en début d'année la construction de villages de conteneurs. Car la réalité est là, un retour est inenvisageable pour la grande majorité de ces réfugiés dont les logements ont été détruits ou se trouvent au milieu des combats.
Notre petite maison de vacances a été touchée par des bombardements. Toutes les fenêtres ont été soufflées par des explosions. Des murs se sont effondrés. Il y a eu aussi des pillages. Nous le savons grâce à des voisins qui nous ont envoyé des vidéos de la maison. Nous ne pouvons plus y retourner. Nous avons bien encore notre appartement dans la région de Donetsk. Mais là-bas aussi, les bombes explosent. Il y a des combats tous les jours. Je ne peux pas rentrer avec les enfants. Il n'y a plus aucun avenir là-bas pour notre famille. Plusieurs de mes cousines sont aussi venues se réfugier en Allemagne.
La police allemande lance régulièrement des appels à destination des réfugiés pour ne pas tomber dans le piège tendu par des personnes sans scrupules, prêtes à profiter de ce manque de logement. Galina entend presque chaque jour des témoignages de ses compatriotes qui confirment ce danger.
C'est vraiment horrible de voir ça. Des personnes promettent un appartement en échange de 10 000 euros. Elles disent que c'est pour couvrir leurs frais et payer la caution. La plupart du temps, les réfugiés ne signent même pas de contrat de location. Et le loyer est encore plus élevé que les prix du marché. Ces personnes ne font que profiter de la détresse des réfugiés. Et malheureusement, beaucoup sont si désespérés qu'ils acceptent de payer.
Grâce à cet appartement, Nikolai peut enfin s'adonner à sa passion sans peur du lendemain, la danse. Comme sur cette vidéo où on le voit participer à des championnats européens, médaille de bronze à la clé. Il a repris l'entraînement 5 fois par semaine, non loin de sa nouvelle maison.
My religion is my personal business.
En Turquie, alors que toutes les enquêtes d'opinion mettent en évidence un recul du fait religieux parmi les jeunes générations, le président Recep Tayyip Erdogan ne démord pas de sa mission annoncée publiquement il y a 10 ans de former une jeunesse pieuse. Et cela commence dès la petite enfance. Il a consulté le Conseil de l'éducation nationale qui a rendu 128 recommandations sur le sujet. On en parle avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer. Anne, certaines de ces recommandations ont été adoptées sans débat, sans même être inscrites à l'ordre du jour.
Elle conseille au gouvernement, je cite, « d'inclure un enseignement de la religion, de la morale et des valeurs dans les programmes préscolaires », autrement dit, dans les écoles maternelles, les crèches ou équivalents. Des ONG et des chercheurs spécialisés dans l'éducation se sont émus de la formule et de ses interprétations. De quelles valeurs parle-t-on ? De valeurs universelles comme celles promues par l'UNESCO, la paix, l'amour, la dignité, le respect, ou de celles prônées par le président turc qui exalte régulièrement les valeurs dites nationales et locales, mélange d'islam et de nationalisme. De quelle religion parle-t-on ? De l'islam sunnite et lui seul, tel qu'il est enseigné dans les manuels de religion et de connaissances morales rendus obligatoires à la fin de l'école primaire. Et comment et pourquoi enseigner des concepts aussi abstraits à des enfants aussi jeunes ?
Est-ce que le gouvernement turc a mis en pratique les recommandations du Conseil de l'éducation ?
Alors non, mais d'autres s'en chargent déjà pour lui. La présidence des affaires religieuses, la Dianet, liée au chef de l'État et chargée de la gestion du culte musulman, a développé ces dernières années des cours de Coran pour enfants de 4 à 6 ans. Le groupe audiovisuel public TRT planche avec cette Dianet sur la création d'une chaîne de télévision chargée de proposer à un public très jeune, je cite, des programmes basés sur des connaissances religieuses correctes dans la droite ligne du Coran. Des communautés islamiques dirigent des crèches privées où les bambins apprennent à réciter le Coran avant même de savoir lire. Dans un discours resté célèbre daté de février 2012, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, se donnait pour objectif de former une jeunesse pieuse. Mais après 20 ans de pouvoir, son projet semble avoir échoué. Selon un sondage très commenté de l'Institut Conda, réalisé auprès de Turcs de 15 à 29 ans, seuls 15% des jeunes se décrivaient comme religieux conservateurs en 2018, contre 28% de la même tranche d'âge en 2008. À l'époque, 27% disaient prier régulièrement, contre 24% 10 ans plus tard.
Merci Anne, à bientôt.
You see, the problem I have with gender is that I'm not even sure whether I know what I mean when I say I'm a girl because I feel that way. Boys can wear dresses and makeup, anyone can wear whatever they want.
En Espagne, cette avancée historique pour les droits des personnes transgenres. Fin décembre, les députés espagnols ont adopté en première lecture la loi trans, comme on l'appelle. Un texte qui ne fait pas l'unanimité, qui va permettre, avec un simple rendez-vous auprès de l'administration, de modifier nom et genre sur les papiers d'identité sans fournir de rapports médicaux, et ce, dès 16 ans. Un reportage de Diane Cambon à Madrid, où elle a rencontré des familles membres de l'association Transformando de parents d'enfants transgenres.
Cheveux blonds mi-longs, pull rose bonbon et jupette assortie, Carolina a 10 ans et les yeux qui pétillent quand elle explique ce qu'elle aimerait faire quand elle sera grande.
Actrice ou chanteuse, je ne sais pas encore. J'aime bien les deux. Là, je fais de la zumba, c'est une danse et du théâtre. Ce que je n'aime pas du tout, c'est jouer au foot. Cela ne m'a jamais plu. Moi, je me sens comme une fille, j'aime me sentir ou m'habiller comme une fille. Je ne sais pas trop comment l'expliquer.
Je ne sais pas comment expliquerlo, mais ça me gusta mucho.
Il a fallu quelques années pour que la mère et le père de Carolina prennent conscience que leur fils voulait être une fille et qu'il ne s'agissait pas d'un caprice.
Quand elle était petite et qu'elle était encore un garçon, elle adorait prendre mes bijoux, mes t-shirts, elle en faisait des robes. Et un jour, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas un garçon. Elle avait 7 ans et a commencé à me dire qu'elle se sentait mal. Moi, j'ai voulu attendre. Son malaise est devenu de plus en plus profond. Elle me demandait de l'aider, mais moi, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Jusqu'au jour où je l'ai retrouvée dans la cuisine avec une paire de ciseaux. Elle voulait se couper le pénis. Elle m'a dit « Puisque tu ne m'aides pas, je vais le faire moi-même ». Là, je lui ai promis de faire quelque chose et j'ai remué ciel et terre pour trouver une psychologue qui m'a dirigée vers des associations. COGAM, qui s'occupe des personnes LGBT, et Transformando.
Une vingtaine de familles de l'association Transformando se réunissent deux fois par semaine à Madrid, chez les uns et les autres, pour confier leurs doutes, trouver du réconfort. Dans un appartement de la banlieue de Madrid, Esther, maman d'un petit garçon transgenre d'à peine 6 ans, revient sur ce voyage vers un monde inconnu.
Chez moi, personne n'a jamais parlé de ça, qu'une personne puisse être une fille avec un pénis et un garçon avec une vulve. Cela me semble très bizarre. Tant que cela ne te touche pas, tu n'imagines pas que cela puisse exister. Maintenant, je le raconte dès que je peux pour que les gens sachent que cela arrive, que nous ne sommes pas des êtres avec deux têtes ou tout vert. C'est quelque chose de normal qui arrive.
Dans le salon, Gustavo, le papa d'Axel, un garçon trans de 14 ans. Il raconte comment se déroule la transition vers l'extérieur.
Le processus de transition ne se réalise pas du jour au lendemain. C'est pour cela qu'on emploie le mot processus. Cela commence au sein du noyau familial, cela commence par un nouveau nom, dans notre cas un nom masculin. On emploie son nouveau prénom et puis peu à peu, cela s'étend vers l'extérieur. Nous, on a décidé d'envoyer un mot à tous les parents de l'école pour qu'ils parlent à leurs enfants durant le week-end. Et dès lundi, tous les enfants l'appelaient Axel, avec beaucoup de naturel. Il avait tout juste 9 ans.
Ensuite, la période charnière commence avec la puberté et la prise des bloqueurs d'hormones ou de testostérone, comme le raconte Andrea, maman de Carolina.
Probablement dans l'année qui vient, on va essayer les bloqueurs pour éviter les transformations physiques liées à la puberté masculine, l'appareil génital, les poils. Et si jamais elle veut revenir en arrière et redevenir un garçon, il suffira de tout arrêter et la puberté reprendra. Mais aujourd'hui, elle veut même qu'on l'opère. Là, je lui ai dit qu'il n'en était pas question, qu'elle devait attendre d'avoir 18 ans. À l'école, elle s'appelle Carolina et on va attendre ses 12 ans pour inscrire son changement de sexe au registre.
Plus besoin d'examen psychologique ni de rapport médical, encore moins d'obligation de se soumettre à un traitement hormonal durant 2 ans pour modifier son état civil. L'autre nouveauté est que pour les 14-16 ans, il sera juste demandé une autorisation parentale et une autorisation judiciaire pour les 12-14 ans. Pour Ana de Blas, membre du mouvement féministe de Madrid, cette loi est le fruit du transactivisme. Elle assure qu'elle encourage ce qu'on appelle la dysphorie de genre à apparition rapide.
Il y a un effet de contagion sociale très important, surtout auprès des adolescentes filles. Elles sont de plus en plus nombreuses à se rendre dans les centres de santé, persuadées que leur identité ne correspond pas à leur corps ou qu'elles sont du sexe masculin. Il faut dire qu'il existe un transactivisme très agressif, selon moi, de la part des associations trans. Et leur objectif est clair, il est de convaincre les adolescents. On le sait grâce aux professeurs. Eux voient comme ces associations organisent des débats à l'école avec des idées qui n'ont rien de scientifique, des idées qui ne sont pas positives pour les jeunes.
Au sein de l'association Transformando, les familles rappellent qu'il s'agit avant tout d'élargir les droits d'une minorité et qu'ainsi l'Espagne s'aligne sur des pays très libéraux sur ces questions comme l'Argentine, le Pays-Bas ou le Danemark.
Meghan a tout sacrifié, y compris sa liberté, pour venir dans le monde qui était le mien. Et peu de temps après, j'ai décidé à mon tour de tout sacrifier pour vivre dans son monde à elle.
À la télé, en interview ou dans un livre, Harry règle encore une fois ses comptes avec la couronne britannique. Le duc de Sussex a publié mardi ses mémoires et c'est déjà un record de vente. C'est aussi un torrent de réactions qui se déchaîne sur les réseaux sociaux. C'est votre Europe du Net, Clémence Pénard. Bonjour Clémence.
Bonjour Juliette.
Et ce livre a fait polémique sur la toile avant même son arrivée en librairie.
Et oui, mystérieuse fuite en Espagne avec des exemplaires qui ont été mis en vente par erreur 5 jours avant la sortie du livre. Alors évidemment, la presse mondiale en a fait ses choux gras. Le livre s'appelle Spare et qui est pièce de rechange ou de façon un tantinet plus élégante, le supplément. La version française. Le titre « Le roue de secours » proposé par une internaute sur Twitter n'ayant pas été retenu. Et on aurait pu même lui préférer « Harry ouvre la chambre des secrets tant les mémoires du prince de 38 ans seulement sont riches en révélations ». Je vous rassure, on ne va pas toutes les énumérer puisque les médias s'en gargarisent déjà depuis plusieurs jours et que les commentaires fusent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le hashtag « Harry » a été utilisé 3 millions de fois. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il en avait sûrement gros, mais alors gros sur la patate, hein, 544 pages. Le prince cadet de la famille royale semble n'avoir rien voulu cacher. Au milieu des révélations sur la perte de sa virginité ou sa consommation de drogue, tout y passe, sa rivalité avec son frère William ou encore ses rapports difficiles avec Camilla, marâtre qui semble tout droit sorti d'un Disney.
Mais ce qui fait sans doute le plus de bruit sur les réseaux, Clémence, c'est le passage sur son engagement dans l'armée.
Oui, le prince Harry a admet dans son livre avoir tué 25 talibans en Afghanistan. Il ajoute avoir considéré ses victimes comme des pièces de jeu d'échecs qu'on retire de la partie. Andrew Neil, vieux crocodile du journalisme britannique, a souligné dans un tweet la stupidité d'une telle confidence. Selon ses mots, les bons soldats ne divulguent pas le nombre de personnes qu'ils ont tuées. Près de 4 millions d'internautes ont lu cette publication et parmi ceux qui ont répondu, il y avait un appui très fort à cette tradition d'omerta chez les anciens combattants. En bref, un épanchement qui a plutôt l'air de se retourner contre Harry.
Alors, est-ce qu'il a eu finalement raison de se livrer à ce grand déballage ?
Le buzz est certain, c'est une belle fenêtre de visibilité pour promouvoir son livre. Il y a surtout beaucoup d'argent en jeu, comme l'explique Virginie Spies, professeure à l'université d'Avignon, spécialiste des médias.
Les Sussex ont besoin d'argent parce qu'ils ne sont plus du tout financés par la couronne. Et donc, à la fois le documentaire Netflix, où on parle de 100 millions de dollars sur 5 ans, ou encore le livre où Harry aurait eu une avance de 20 millions de dollars, c'est ce qu'on entend aussi, mais pas de preuves évidemment tangibles par rapport à cela. Donc on est dans, je crois, la déclinaison d'une marque.
Mais le succès d'une marque n'est pas tant de la lancer, mais de pouvoir la faire perdurer. Et il semblerait qu'en Angleterre, il y ait un burn-out de Harry. Selon un sondage du Times, 44% des Britanniques voudraient désormais le voir définitivement déchu de ses titres. Alors que les Brits subissent de plein fouet l'inflation, son comportement de victime hyper privilégiée exaspère.
Les Anglais en ont assez. En fait, là, il y a une extension, je dirais, du domaine de la pipolisation, notamment grâce ou à cause des réseaux sociaux. Hein. Donc, c'est plus important, plus grand et il y a une plus grande ferveur. Mais la couronne en a vu d'autres. En matière d'image de marque, il est probable que Kate et William s'en sortent parfaitement bien en restant, comme on dit, droit dans leurs bottes et en respectant la tradition qui est point trop d'en faux en matière de communication pour l'Angleterre. Hein.
Il nous reste tout de même une question. Comment explique-t-on qu'Harry et Meghan soient la cible d'autant de critiques sur les réseaux sociaux alors que le prince Andrew, impliqué dans un scandale de trafic sexuel de mineurs, lui a disparu des radars. Comme les fans de la série The Crown, j'attends impatiemment la prochaine saison.
Nous aussi. Merci Clémence Pénard pour cette actualité du net en Europe. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.